Marie-Madeleine et son nouvel invité.
À savoir Yves Reichsteiner, qui est le directeur artistique de Toulouse Les Orgues depuis déjà un certain nombre d'années. Vous me confirmez, je ne sais plus combien de temps.
2014.
2014, d'accord. Et dans cette année, c'est la 25e édition et qui se déroulera du 8 au 18 octobre. Donc c'est la semaine prochaine, c'est jeudi prochain.
L'ouverture, c'est jeudi prochain.
Voilà, jusqu'au 18 octobre. Donc, vous avez dû faire reformulation, si on peut dire, pour ce maintes propositions pour que ce festival, mais au moins il existe, il est maintenu, c'est déjà une bonne chose.
Oui, évidemment que nous sommes passés par toutes les heures difficiles que connaissent tous les festivals et autres activités culturelles. Donc la question est de savoir qu'est-ce que nous pouvons maintenir dans le contexte que vous connaissez tous. Et donc notre priorité, ça a été vraiment de maintenir le festival et de faire tous les aménagements nécessaires pour que justement il puisse être maintenu. Donc ça a consisté au mois de mai à renoncer aux artistes qui venaient de l'étranger, vu les risques évidents de problèmes à la frontière, et également de renoncer aux grands chœurs que nous avions invités, parce que là aussi, on sait que les chœurs souffrent beaucoup aujourd'hui pour leur pratique quotidienne.
Oui, à tous les niveaux d'ailleurs.
Tous les niveaux. Donc, avec cet effort-là, ça a été de reprogrammer presque 40% du festival, ce qui fut fait. Donc, je me réjouis quand même d'accueillir des artistes qui ont répondu présent, quand même un peu au dernier moment, à notre échelle. Et donc, je suis quand même assez heureux de pouvoir dire que c'est un festival quasi normal, en ce sens où tous les grands moments clés de notre festival, la nuit de l'orgue, le ciné-concert, l'ouverture, tout ça, sont des moments qui sont maintenus. Et après, nous avons simplement renoncé aux journées en région, trop difficiles à organiser dans ce contexte.
Et oui, il y avait les autorisations.
Nous avons globalement une attitude relativement pragmatique en essayant de sauvegarder le maximum de ce que l'on pouvait, ce qui au final revient à dire que le festival est au 80-90% de ce qu'il devrait être, donc ce qui est quand même très très bien. Nous avons vraiment une offre de concerts aussi variée que d'habitude, donc j'espère maintenant que le public répondra présent.
Donc, j'imagine que c'est pour tous les lieux de spectacle vivant au niveau des jauges, c'est une place sur deux quand les gens ne se connaissent pas, c'est ça ? Un fauteuil sur deux, enfin.
Nous laissons l'espace réglementaire entre les groupes de personnes parce que évidemment beaucoup de gens viennent en couple.
Bah donc, oui,
évidemment nous ne séparons pas les couples.
Ou en famille ou je sais pas.
Voilà, exactement, ou en famille, etc. Donc en fait nous mettons simplement une distanciation entre personnes qui ne sont pas sur la même réservation simplement. Et cela veut dire que concrètement nous sommes à des demi-salles à peu près.
Voilà. Et au niveau de l'accueil, il y a plus de temps prévu pour avant l'entrée ou comment cela se passe-t-il ?
Alors, nous privilégions les réservations sur Internet.
Oui, je me doute.
Et lorsque les gens ont des billets, il suffit de les scanner, ce qui va relativement vite. Et du coup, en fait, après, avec une demi-jauge, nous n'avons pas ouvert tellement plus en avance parce qu'en réalité, les gens auront largement le temps de venir s'installer. Nous avons des équipes de bénévoles assez importantes qui vont être présents, qui vont accompagner les gens à leur place, vérifier bien sûr que les distanciations soient respectées sur les bancs des églises. Et donc nous avons mis en place, mais comme beaucoup d'autres associations culturelles, toute la machinerie qu'il faut, aussi humaine que technique, pour en faire en sorte que les gens puissent quand même in fine apprécier leur concert. Parce que je crois quand même que on a aussi aujourd'hui envie de parler de musique plus que de Covid.
Oui, ah bah oui.
Et notre fonction, voilà, c'est de faire passer une bonne soirée, un moment de rencontre, de convivialité quand même, et un moment d'émotion musicale grâce à ces orgues et à ces lieux magiques de Toulouse.
Donc cette année, il y a 7 lieux, c'est ça, 7 églises que vous avez.
Oui, nous avons légèrement restreint, souvent nous sommes sur une dizaine ou une douzaine de lieux différents. Là, nous avons privilégié les lieux phares, évidemment Saint-Cernin, la cathédrale, la Dalbade, etc. Je fais une petite remarque en passant, il n'y a pas que des problèmes de Covid, il y a aussi des problèmes de travaux, par exemple, puisque l'orgue de la Dorade est en travaux, la chapelle des Augustins dans le parc au musée est en travaux aussi.
Avec ce magnifique orgue, vraiment.
Voilà, avec l'orgue de Saint-Jérôme qui est en travaux.
Ah, c'est aussi, d'accord.
Oui, donc en fait, ce contexte-là explique aussi un peu le choix restreint. Et indirectement, cela me permet de faire une petite annonce, qui est de dire qu'en 2021, nous allons retrouver plusieurs lieux emblématiques qui n'avaient plus été visités du fait de ces travaux.
D'accord.
Et qui seront donc un peu, à notre échelle, réinaugurés au sein du festival.
Donc il y aura les Augustins, entre autres
Augustins, Saint-Jérôme et la Dorade.
D'accord, dont voilà. Les trois qui actuellement sont en rénovation, si on peut dire.
Exactement.
D'accord. Et j'aimerais savoir, parce que j'ai vu en lisant le petit dossier, que l'orgue de Saint-Étienne était appelé un nid d'hirondelle. Qu'est-ce que cela signifie ?
Ça signifie que c'est comme si on l'avait scotché contre le mur de la cathédrale.
D'accord.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nid d'hirondelle par rapport à une tribune ? C'est qu'en réalité... Peut-être vous le savez en voyant un orgue. Un orgue se trouve généralement situé sur ce qu'on appelle une tribune, donc une balustrade en bois ou en pierre qui occupe toute la largeur de la nef.
Oui.
Le nid d'hirondelle, au contraire, c'est un espace qui n'est que celui de l'orgue. Donc en fait, l'orgue repose sur une simple structure en bois qui ne fait que la surface de l'orgue. Ça veut dire par exemple concrètement qu'il n'y a que l'organiste qui monte là-haut.
Qui peut être
là. Il est impossible de mettre un chœur, impossible de mettre beaucoup de monde. Et en nid d'hirondelle, parce que justement, souvent, c'est situé en hauteur, et souvent, ça n'est pas situé à l'entrée d'une église, ça n'est pas situé sur le côté.
Oui.
C'est vraiment comme accroché contre un mur.
D'accord.
Ça peut être au milieu de la nef, ça peut être dans le chœur, ça peut être dans un transept. Là, les lieux changent.
D'accord.
Et en réalité, cette image du nid d'hirondelle, c'est qu'en fait, quand on voit cet orgue depuis en bas, c'est comme je disais au départ, comme si on l'avait scotché littéralement sur le bord.
Mmh. Non, parce que j'ai trouvé la formule jolie, dont je voulais savoir pourquoi c'était... Et aussi, je voulais vous demander, parce que j'ai vu qu'il y aura au minime l'église des Minimes, où on disait que c'était plus pour des œuvres ibériques. Et donc, je sais, mettons que Sainte-Anne, c'est plutôt pour des œuvres italiennes. Bon, les Augustins, c'est plutôt l'Allemagne. J'aimerais savoir comment vous puissiez nous expliquer pourquoi, comme ça, certaines musiques sont plutôt destinées à un orgue plutôt que... C'est en fonction de quoi ?
Bien sûr. Et en fait, je pourrais utiliser une comparaison culinaire ou œnologique. En réalité, les orgues, comme les vins, sont un peu des objets qui ont des cultures locales. C'est-à-dire que chaque pays, ou on pourrait même plutôt dire des régions, ont développé des spécificités.
D'accord.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on connaît un peu l'orgue et le milieu de l'orgue, on sait reconnaître des caractéristiques sonores qui sont celles, par exemple, d'un orgue espagnol. L'orgue espagnol va avoir des timbres qui lui sont propres et qui font qu'on le reconnaît comme un orgue espagnol.
D'accord.
Au même titre qu'un connaisseur de vin sera capable de reconnaître un Bordeaux rien qu'au goût.
Oui,
vous voyez, c'est un peu de cet ordre-là.
Oui, d'accord, oui.
Donc l'orgue, bien sûr, reste un instrument à tuyaux dans tous les pays, mais l'orgue allemand va avoir des timbres un petit peu plus riches en fondamentales, un tout petit peu plus larges, un peu plus graves, tandis que l'orgue espagnol est beaucoup plus pétillant, beaucoup plus clair, beaucoup plus éclatant, quelquefois plus puissant également, il y a des questions de puissance. Et alors, forcément, lorsqu'on dit ça, on se rend compte que, comme la musique a été composée sur ces instruments, elle a donc un lien organique avec son instrument. Donc la musique de Bach, forcément, a un lien organique avec les orgues allemands, parce qu'elle a été composée sur ces instruments, qu'elle correspond à cet univers esthétique, et que donc elle est en totale symbiose avec ces instruments. Donc la logique qui a préludé à ces différentes constructions d'orgues à Toulouse, le règne de mes prédécesseurs, ça a été justement d'offrir dans différentes églises de la ville des instruments ayant des origines culturelles allemandes, espagnoles, italiennes, comme vous le soulignez, pour pouvoir permettre d'exécuter justement un répertoire extrêmement vaste.
Non, pour être plus juste, si on peut dire, au niveau de la... De la sensibilité, quelque part, enfin, du ressenti, que ce soit vraiment que ça colle le plus, quoi, possible.
Absolument, absolument. Et c'est une certaine richesse sonore, c'est aussi.
Bien sûr.
Il y a un côté, il y a presque de l'exotisme à pouvoir se dire, j'entends dans l'église des Minimes, un orgue qui a le son d'un orgue espagnol du XVIIe siècle. Il y a un petit côté voyage dans le temps et voyage dans l'espace. L'orgue, c'est un petit peu ça aussi.
D'accord. Et donc, pour revenir à celui des Augustins, que moi je trouve vraiment magnifique, il avait été refait, enfin récemment, tout est relatif, mais il avait été, je ne sais plus.
Alors, l'orgue des Augustins est régulièrement entretenu et de temps en temps, il y a besoin de travaux un peu plus importants sur les tuyaux, par exemple, qu'il faut à la fois nettoyer, de temps en temps égaliser au niveau du timbre. Et donc, il y a eu ces dernières années des travaux qui ont été faits. Oui, l'orgue reste une machine, si vous voulez.
Oui,
c'est comme votre voiture et votre ordinateur. De temps en temps, vous l'amenez chez le garagiste. Et là, c'est plutôt le garagiste qui vient à l'orgue pour procéder à l'entretien qui permet à cet outil musical de fonctionner à 100%.
Et donc j'ai vu aussi que des étudiants allaient présenter leur projet d'un orgue qui serait viable en 2021, c'est ça, si je ne me suis pas trompée.
Oui, alors c'est un projet un peu fou. Alors merci de me donner l'occasion d'en parler.
Comment est né d'ailleurs ce projet ?
Alors, c'est une histoire d'homme, et pas de femme, malheureusement. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Bernard Lazare, qui est un des professeurs au génie mécanique, donc un département de l'IUT. IUT, génie mécanique.
Il se trouve vers Rampalo, non, c'est ça ?
Rangueil, oui, par là. Et donc, lui, qui connaissait très très bien le milieu musical, est venu nous voir en disant « Je souhaiterais que nos étudiants qui arrivent à Toulouse, parce que la plupart viennent de l'extérieur, soient mis au contact de votre festival pour pouvoir à la fois découvrir la ville, découvrir les orgues, etc. » Et on a fait ça plusieurs années de suite. On a essayé de faire des événements privés pour les étudiants du génie mécanique. Et puis, au bout d'un moment, à force d'échanger avec Bernard, en buvant une bière sur un coin de table, on s'est dit « Et pourquoi on n'irait pas plus loin ? Et pourquoi est-ce qu'on ne leur ferait pas mettre la main à la pâte ?» Donc, ces jeunes, hein, il faut le savoir quand même, sont des gens qui fabriquent. C'est le génie du mécanique. Et puis, l'orgue, comme je viens de le dire 5 minutes, c'est une machine. Donc, l'idée est née de se dire, tiens, est-ce qu'ils pourraient, dans le cadre de leurs études, fabriquer un petit orgue ? Et alors, les profs sont devenus fous, complètement excités à cette idée-là, parce qu'évidemment, il y a toute une équipe pédagogique.
Mais oui, j'imagine.
Et alors, entre les spécialistes de l'électronique, les spécialistes des fluides, les spécialistes des dessins sur ordinateur et tout, il y a toute une dynamique qui s'est mise en place et qui a abouti à un projet sur 2 ans, où des groupes d'étudiants, une quinzaine sur chaque année, par groupe, travaillent sur différents éléments de construction d'un orgue. Et si tout se passe bien, on aura un petit orgue d'une centaine ou 150 tuyaux qui sera jouable depuis un clavier et qu'on inaugurera peut-être symboliquement en octobre 2021. Alors, certaines pièces auront été fournies, les tuyaux par exemple, qui sont quand même compliqués à faire parce que c'est des tuyaux qu'il faut fondre avec du métal. Donc ça, on les récupère d'orgues anciennes qui ont été démolies. Mais par contre, toute la partie mécanique, électronique, vent, soufflerie, etc. sera faite directement par les étudiants du génie mécanique. Et donc, cette année, le samedi 17, je les ai invités en fait à parler de ça, à présenter leur projet, montrer des dessins, quelques éléments mécaniques pour partager simplement ce projet avec le public.
Et où sera-t-il installé ?
Ce sera l'orgue du génie mécanique.
Ah, il sera là-bas à l'école.
Oui, après, évidemment, il faut s'imaginer que ce sera un petit instrument qui a vocation à être transporté. On le mettra sur des chariots à roulettes. Mais on ne s'est même pas encore posé la question.
Oui, il y a Thierry qui voulait demander quelque chose.
Oui, tu me demandais si ce projet était une façon de relancer le métier de facteur d'orgue.
c'est une question très ambitieuse. Nous n'avons pas pensé jusque-là. Mais en fait, vous savez, moi, ma philosophie dans ce festival, c'est de créer un espèce d'écosystème dont l'orgue est un peu le fertilisant. Et le but, c'est d'avoir autour de l'orgue et autour de la musique des activités, mais dans toutes les directions possibles. Si après, nous avons des retombées positives, tant mieux, et c'est en fait ce que j'espère, mais on peut jamais le calculer. Donc si vous voulez, aujourd'hui, vous me dites, est-ce que c'est une manière de relancer la profession ? Je suis pas sûr que ça relancera la profession, mais si quelqu'un est tout à coup se trouve une vocation à se lancer en facture d'orgue, on n'aura pas travaillé pour rien.
Puisqu'en fait, d'une certaine manière, puisque vous dites que cet orgue sera dans l'école, dans les locaux de l'école, ça renoue avec un temps très ancestral de l'orgue, où l'orgue n'était pas forcément dans les églises, à une époque fort, fort, fort lointaine.
Oui. L'orgue est devenu un instrument, entre guillemets, un peu confiné à l'église, si vous me pardonnez ce mauvais jeu de mots.
C'est votre humour, votre humour suisse.
Mais c'est vrai qu'à une époque, comme vous dites, fort lointaine, c'était un instrument banal, en ce sens qu'il était en fait partout. Il était dans les salons, il était dans les châteaux, il était dans les églises, etc. Alors je ne vais pas refaire l'histoire de l'orgue sur ce chapitre-là, mais si vous voulez, moi je suis un passionné d'orgue, je suis un organiste moi-même, c'est le seul joujou qui me fait triper autant. Donc forcément, j'ai envie d'en mettre un peu partout. Je peux quand même dire que c'est l'orgue qui animait les films muets dans les années 20 ou 30, donc il a quand même duré jusque-là dans la société. Et après, effectivement, j'ai coutume de dire que c'est un peu le haut-parleur qui l'a remplacé, parce que l'orgue qui était très puissant, c'est le haut-parleur qui a réussi à faire autant de bruit. Mais aujourd'hui, c'est un instrument qui est magique, parce qu'il est en fait totalement suranné. C'est-à-dire que quand les gens viennent voir l'orgue, ils se disent, c'est comme quand on est devant un château médiéval, on se dit, mais qui sont les fous furieux qui ont réussi à construire ça. Bon, je me fais une petite parenthèse, mais dans ce monde où tout est un peu fragile, où on est bardé de technologies qui nous font
un peu peur
et rêver. Moi, quand je regarde mon ordinateur, j'ai toujours pas compris comment il arrive à faire tout ce que je lui demande. Donc, c'est un côté magique, mais qui nous échappe. On est totalement dépendant de ça. En fait, l'orgue, c'est encore une technologie un peu ancestrale où quand on regarde les bouts de bois qui se déplacent, au moins n'importe quel couillon peut arriver à comprendre comment ça marche.
Et en fait...
C'est ça la magie de l'orgue aussi, c'est que c'est un côté très premier degré, et je vous raconte encore une anecdote. En Suisse, au XVIIIe siècle, on ne sait pas comment, mais les paysans se sont mis à fabriquer des orgues. Mmh. Alors, c'est des paysans qui avaient un peu de thunes quand même, donc ils achetaient des tuyaux, parce que ça, comme pour le génie mécanique, ils n'arrivaient pas à faire tout seuls. Mais ils fabriquaient des orgues au fond de leur ferme, où
D'accord.
ils avaient des scies et puis des planches de bois, etc. C'est ça un orgue, c'est accessible quelque part à tout le monde.
Et ce qui est impressionnant, c'est que les orgues, c'est des mécaniques justement qui sont faites pour durer très très longtemps. Donc ça rajoute un petit peu au côté des œufs que vous disiez, à l'ère où on vit, où on est dans quand même
l'obsolescence programmée.
Mais l'orgue, si vous voulez, c'est exactement la contre-obsolescence, parce que c'est les instruments qui durent 500 ans. Alors imaginez votre téléphone portable qui dure 500 ans. Non, mais si on était comme ça, on n'aurait plus de problème écologique.
Voilà. Donc en fait, ça... Comment dire, ça englobe plus que l'aspect musical, si on peut dire.
Mais oui, mais mine de rien, au travers de cette conversation qui a légèrement dévié, je trouve très intéressant parce que c'est une réflexion que j'ai moi-même où je me rends compte que l'orgue, qui est un peu une espèce d'image passéiste, on se dit, ouais, c'est un truc de vieux, bon, mon fils, pour lui, je suis un dinosaure.
Mais il a quel âge, votre fils ?
15 ans.
D'accord.
Mais en réalité, je finis par rêver que notre modèle de société, d'économie et de musique puisse quelque part redevenir actuel, voire représenter une forme d'idéal. Parce qu'en fait, nous organistes, vivons dans une certaine sobriété, on n'a pas besoin de centaines de haut-parleurs pour faire de la musique, on ne consomme pas follement d'électricité, certes, on consomme un peu d'électricité, mais je dis en rigolant qu'on a encore les pompes du 19e siècle où il y avait un malheureux qui venait pomper l'orgue sans électricité. Donc en réalité, on peut même faire de la musique le jour où il y aura un effondrement total et on n'aura même plus un kilowattheure dans les tuyaux. Mais bon, ça c'est un peu l'anecdote. Mais c'est vrai, on a en fait un rapport au temps grâce à l'orgue qui est extrêmement vaste, parce qu'on a ce passé qui vient à nous. Et moi, ma mission dans ce festival, pour renouer avec cette question-là, c'est de montrer ce lien, c'est-à-dire à la fois ancrer ce passé dans la réalité des concerts, faire en sorte que les gens soient émerveillés par le son de ces orgues, quelquefois avec des musiques pas classiques, pour leur dire, il n'y a pas que le patrimoine.
Oui, vous faites justement, se croiser différents moments musicaux, enfin différents,
oui, c'est ça,
différents
plein de styles,
types musicaux. Voilà.
On y viendra, on fait du jazz, etc., et puis des choses beaucoup plus contemporaines que le jazz.
Oui.
Mais justement pour montrer que ce passé peut être relié au présent, voire au futur. Ça, on le verra plus tard.
Bon, mais nous allons revenir peut-être à la programmation. Donc, l'ouverture, c'est jeudi prochain à 20h30 avec les organistes Notre-Dame. Vous pouvez nous parler de ce choix ?
Oui, donc c'est un programme qui justement a été réélaboré pendant le confinement. Donc mes deux collègues Vincent Dubois et Philippe Lefebvre, titulaires donc de Notre-Dame de Paris, ont accepté que je les invite sur un programme où ils joueront des œuvres de leurs prédécesseurs, et comme le veut la tradition à Notre-Dame, ils finiront le concert par des improvisations. Donc ils vont jouer chacun une moitié de concert avec des pièces du 18e, du 19e et des improvisations.
D'accord. Donc ça, c'est pour la soirée d'ouverture. Ensuite, le vendredi 9 octobre, c'est les suites pour viol de Couperin. Vous pouvez en parler ?
Oui, alors c'est un...
C'est assez original aussi,
je trouve. C'est un beau programme de musique baroque aussi qui a été reprogrammé pendant le confinement. Alors Sébastien Dossé devait venir avec Mathilde Vial pour ce concert du 9 octobre. Seulement depuis 3 jours, le Théâtre des Champs-Élysées à Paris lui a imposé de prolonger son concert aux Champs-Élysées du 8.
D'accord.
Et donc il ne pourra plus venir, mais... comme la vie est bien faite et que j'ai beaucoup de chance dans la vie, j'ai réussi à trouver une équipe de jeunes musiciens. Je les en remercie vraiment beaucoup. Claire Gautreau et Erwan au clavecin, qui vont venir jouer le même répertoire. Donc les personnes qui ont pris leur place et ceux qui voudraient venir écouter les suites pour viol de Couperin, qu'elles gardent leur place, parce que finalement, même si ce ne sont pas exactement les mêmes artistes, ce sera quand même le même répertoire. Et donc, ça restera une très belle soirée à Saint-Pierre-des-Cuisines.
À Saint-Pierre-des-Cuisines, parce qu'il y a un magnifique lieu.
Absolument.
C'est vraiment. Absolument. Ensuite, l'ami Guidarini.
Oui, alors ça, c'est un fait d'actualité. Oui, nous avons perdu pendant le confinement l'un de nos très aimés collègues qui est décédé d'un cancer. Mm-hmm. Quelqu'un qui était une véritable mémoire vivante des orgues de Toulouse. Mm-hmm. Et comme son décès a créé une véritable onde de choc et d'émotion dans le milieu, beaucoup d'organistes ont souhaité venir jouer à Toulouse en son honneur. Et donc, j'ai organisé avec l'association Jean-Claude Guidarini, qui vient de naître, cette soirée du samedi 11, 10
Le 10 samedi octobre, à Basilique Saint-Cernin, 20h30.
Voilà, une soirée en fait où plusieurs organistes viendront se succéder pour jouer des répertoires en lien avec Jean-Claude Guidarini.
Non, pour lui rendre hommage.
Absolument. Pour lui... Absolument.
D'accord. Bon, ça aussi, ça a été, fait pas au dernier moment, mais
Non, c'est une année. Il y a un monsieur de France Inter qui dit toujours cette délicieuse année de merde 2020.
Si je peux te
dire
ça.
Je ne sais plus. Je crois que c'est Trapenard, mais je suis pas sûr.
Je suis un peu
d'accord, parce que pour nous à Toulouse, nous avons perdu Jean-Claude Guidarini d'un cancer et nous avons perdu un facteur d'orgue très doué d'une rupture d'anévrisme au mois d'août. Mm-hmm. Ça fait beaucoup, parce que quand même c'est un milieu qui est, bon voilà, nous ne sommes pas des centaines à travailler,
milieu,
c'est un
oui.
petit milieu
oui,
et tout le monde se connaît, beaucoup de gens s'apprécient. On a la chance à Toulouse d'essayer de faire une équipe qui plutôt travaille ensemble, mm-hmm. plutôt que les uns contre les autres, et c'est vrai que quand quelqu'un disparaît, tout le monde est concerné.
Mm-hmm. Oui, parce que là, ça fait deux sur une même saison. Même...
Oui, ça arrive pas, heureusement, souvent.
Donc, après ce que vous appelez les grandes soirées, ça sera le dimanche 11 octobre, la messe au temps du Roi Soleil.
Mm-hmm.
17h.
Autour donc, d'une œuvre pour
Saint-Étienne, dans l'orgue à Nîmes-Hirondelle.
Exactement. Ce sera un concert avec deux musiciens qui s'alternent comme on le faisait à l'époque à la messe au XVIIIe siècle. Donc l'orgue joue une moitié des musiques, et là il joue en l'occurrence la messe pour orgue de Grigny, 1699, une œuvre très connue du répertoire d'orgue. Et donc en alternance de ces pièces, Frédéric Tavernier va chanter l'ordinaire de la messe, Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus.
C'était le monsieur qui vous accompagnait l'autre jour ou...
Absolument, un très très grand chanteur.
Lors de la présentation du festival, voilà,
oui.
Je précise.
Un très grand chanteur spécialiste en musique byzantine. Et donc, il a exhumé de nos bibliothèques une messe en grec imprimée au XVIIe siècle à Saint-Denis, près de Paris. Et donc, il a été très surpris de trouver qu'à Saint-Denis, au XVIIe siècle, on chantait la messe en grec. Et donc, il a proposé au disque, un disque qui est sorti il y a un an, une reconstitution de cette messe, donc avec les parties d'orgue, hein, puisqu'il y a toujours l'orgue qui alterne avec le chant. Et simplement, au lieu d'avoir le chant en latin, dans le
chant classique,
ancien, on va avoir ce chant très particulier qui a donc une connotation presque un peu musique traditionnelle. En fait, quand il chante, on est un peu entre deux mondes. On est entre le grégorien classique de l'église, et puis on est entre ce chant byzantin un peu plus rauque, un peu plus roots, comme je dis. Et ça va donner, je pense, à ce concert une tonalité tout à fait particulière. C'est souvent ce que je cherche un peu dans mes programmations. On a une programmation tellement riche, par exemple, dans le baroque, partout à Toulouse. Il y a plein de collègues qui font les choses que j'essaye à Toulouse des orgues.
De chercher l'insolite.
D'amener un petit regard légèrement décalé pour offrir au public, évidemment, ce qui fait la marque de fabrique de notre festival.
Ouais, le côté comme ça, insolite, enfin, qui est moins connu. Après, donc, le souffle basque.
Oui,
là
alors
aussi,
ça.
Notre approche.
Commande TLO, donc ça, c'est moi qui est marié des musiciens.
Ah, d'accord.
Donc j'ai appelé un excellent improvisateur, Thomas Hospital, qui est basque, organiste à Paris. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu accepterais de monter un programme avec des musiciens traditionnels du Pays basque? Puis il m'a dit, ouais, c'est une super idée, on va faire ça, j'avais déjà envie de le faire et tout. Et puis après, j'ai appelé Thierry Biscari, avec qui j'avais fait de la musique, qui est un chanteur traditionnel et qui joue d'autres instruments. Puis j'ai dit à Thierry, tu veux bien faire un projet avec orgue, puis tu peux amener des copains. Puis il m'a dit, ouais, j'amène deux mecs qui font de la chalaparta, donc une sorte de percussion. Donc il y a un trio de musiciens traditionnels qui utiliseront bien sûr leur chant traditionnel basque, beaucoup lié aussi à la danse. Et donc Thomas Hospital va respectivement les accompagner, leur donner la réplique, improviser sur des mélodies, etc. Donc il va y avoir tout un montage musical entre ces deux univers qui vont évidemment complètement s'interpénétrer. Ils ne vont pas jouer l'un après l'autre, hein, ça va être complètement imbriqué. Et comme c'est vraiment quatre super gars que je connais et que j'apprécie beaucoup, je ne doute pas du résultat.
D'accord. Donc toujours votre curiosité et vos talents de marieur, si on peut dire, puisque vous aimez bien comme ça se rencontrer.
Puis là, on va vraiment dire
différents
création.
Différents types musicaux.
Oui. Oui, puis création, parce que bon, si le mot création a vraiment un sens, c'est quand même là où chacun va quand même faire un pas de côté hors de son milieu habituel. Parce qu'il va quand même falloir dialoguer avec le copain dont je ne connais pas du tout les codes musicaux. Hein. Enfin, c'est quand même quand on joue du classique, on ne nous apprend pas du tout à faire de la musique trad. Hein.
Oui,
et puis je vais vous dire, ça ne fonctionne pas pareil. Hein, parce que moi, pour avoir fait ça, il m'a fallu un moment pour m'y habituer. Mais ils ont travaillé déjà, hein, ils ont déjà fait une résidence de travail sur ça. Et comme ils vont très vite, je suis sûr que ça sera très bien.
Après, dans ce que vous appelez les grandes soirées à 20h30, le 14 octobre, la cathédrale Saint-Étienne, dehors dans les nuages, c'est un beau titre. Donc.
Magnifique titre avec un jeu de mots avec le clarinettiste saxophoniste Laurent Dehors, jazzman, comme Andy Emler qui est à l'orgue. Et tous les deux sont donc nos invités dans le cadre d'une collaboration, partenariat avec Jazz sur 131. Premier partenariat depuis que je suis à Toulouse-les-Orgues, donc je me réjouis vraiment beaucoup de cet événement.
Oui, parce que vous aimez aussi aller vers d'autres structures, enfin d'autres festivals. C'est aussi
absolument.
C'est votre façon d'appréhender et de présenter, de donner cette patte particulière au festival Toulouse-les-Orgues.
Ben oui, parce que si vous voulez, on ne va pas attirer le public en leur faisant de l'orgue seul. Enfin, il faut être un peu réaliste. Et en même temps, l'orgue est tellement souple qu'il permet tellement de déclinaisons musicales.
D'adaptation,
voilà.
Oui.
C'est pour ça que, après, on ne peut pas toujours faire des choses. Je me rappelle d'un projet avec le groupe Merci, le groupe de théâtre.
Avec son agence. De Solange Oswald.
Avec Solange, et malheureusement, c'est un projet qui ne s'est pas concrétisé, mais on était allé assez loin dans l'envie.
Et vous pensez que vous pourriez ultérieurement ça pourrait se faire, ou c'est vraiment caduque?
Le problème, c'est qu'on n'a pas su trouver un lieu qui se prêtait à la fois à l'orgue et à la voix.
Ah oui,
en réalité, la voix est trop noyée dans l'acoustique des cathédrales
pour
qu'elle puisse faire du théâtre. Mais effectivement, dans le futur, on ne sait jamais. Mais on avait imaginé un truc vraiment trop bien. On avait imaginé écrire une messe du capitalisme avec toute la liturgie de dévotion à l'argent. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment écrire un sermon, vraiment un culte au dieu argent. Le truc total délire. Avec de l'orgue qui aurait fait des hymnes complètement décalés, du genre on célèbre la bourse, c'est le CAC 40, etc. Ça, je pense qu'on aurait bien rigolé.
Et est-ce qu'avec les... Puisque vous dites, oui, forcément, un orgue dans une église, ça prend... entre guillemets, ça étouffe tout le reste, quoi, puisque par sa puissance et par... Et avec les petits orgues là, que vous avez portatifs, dont vous vous servez, enfin les musiciens se servent pour aller dans les écoles notamment, et ça ne pourrait pas fonctionner. Je pense à l'histoire de Solange Oswald.
Oui. Disons que oui, il fallait quand même un peu de puissance. Le problème, c'est que pour faire une fausse messe du capitalisme, il fallait quand même un orgue qui gronde qui montre un peu les muscles. C'est ça. Et c'est là où on n'a pas trouvé de lieu. On a essayé, on a fait plusieurs repérages, mais on n'a pas réussi à trouver quelque chose. Mais qui sait dans le futur, parce que j'ai encore sous le coude quelques idées assez originales qui me permettront probablement dans le futur d'aller dans des nouveaux lieux avec un orgue. Donc voilà, on en reparlera dans quelques années. Dans une année ou deux, pour être précis.
D'accord, je retiens. Dans l'île Malanui, temple du Salin, donc qui est tout près. Le romantisme allemand, c'est au Temple du Salin où avait lieu la présentation du festival.
Exact, avec un trio de musiciens ancrés sur Toulouse. Stéphane Bois, mon collègue qui enseigne au conservatoire, et qui a réuni autour de lui Camille Scavelli et Marie Nonon, respectivement soprano et violon, pour un très très beau programme un peu intime sur des musiques fin 19e, début 20e, Reger, Kargelertz, Louis Vierne, etc.
Donc, vous proposez un voyage comme ça.
Oui, tout à fait, vraiment un autre univers. C'est marrant parce que je n'ai jamais fait comme vous, comme ça, une sorte de saute-mouton d'une soirée à l'autre, et je me rends compte en le faisant que finalement, c'est vrai, c'est très hétérogène, mais finalement, ça fait une sorte de kaléidoscope assez... j'espère, assez attirant.
Ouais, ça, oui, mais c'est comme un diamant avec différentes facettes, on va tout dire ça fait. Comme ça. Non, mais nous continuons, et ma façon de procéder. Dans le 17 octobre, la nuit de l'orgue, avec les improvisations débridées, ça c'est le grand, la nuit de l'orgue, c'est oui. La grande fête, si on peut dire.
Oui, souvent c'est un moment très long, plus de 2 heures de musique, donc là on l'a un tout petit peu concentré, et j'ai aussi concentré les artistes, qui seront un jazzman et un improvisateur à l'orgue, et avec la collaboration d'Hervé Subiette, donc le chanteur, on arrivera en fait à les mettre en dialogue tous les trois et faire là aussi une soirée entièrement création-improvisation.
C'est notamment le chanteur qui fait beaucoup de spectacles pour les enfants.
Exactement. Il a fait beaucoup de spectacles aussi avec des chansons de Nougaro. Ils sont en train d'élaborer là une trame musicale où ils vont se baser sur des chansons, sur des textes de poètes. Ils vont faire quelque chose comme ça où Hervé sera peut-être un peu l'instigateur des improvisations, et ensuite on aura systématiquement la déclinaison classique jazz avec des imbrications, des alternances, bon voilà, toute une sorte de jeu qu'on peut imaginer avec ça.
Les chansons seront écrites par lui parce qu'il les écrit.
Pas forcément. Je sais pas encore en fait, parce que je leur laisse faire leur sauce de leur côté, et puis on verra après. Mais ils ont fait déjà une trame, et je me rappelle pas le détail en fait, pour être clair.
Donc, puisque moi je le connais, oui, je l'ai surtout comme pour des spectacles pour jeune public, enfin je l'avais reçu pour ça. Donc il y a toujours aussi, vous réservez toujours une part spécifiquement pour le jeune public aussi.
Oui, c'est le premier samedi à 15h, nous avons une reprise pour une fois. C'est le spectacle Jules Verne qu'avaient monté Baptiste Géniaud et Vincent Dubois.
Qui organise en Aveyron, c'est ça?
Oui, c'est ça. Hein? Vincent Dubus.
Et qui donne des cours aussi, enfin qui va aussi avec des petits orgues dans différents instituts pour...
Exactement, donc l'organiste Baptiste Géniaud, lui, il est responsable à Toulouse les orgues de toute la partie médiation vers les scolaires.
D'accord.
Et ils ont fait un très joli spectacle qui était tellement bien il y a 2 ans que j'ai souhaité le reprogrammer parce que ça avait eu beaucoup de succès et que pour une fois je me suis dit franchement ça mérite d'être redonné au public.
Et puis ceux qui ne l'avaient pas vu il y a 2 ans pourront le découvrir maintenant.
Exactement.
Et il y a aussi, si je ne me trompe, ce que vous aviez fait durant cet été, c'est Raconte-moi l'orgue.
Oui, donc les Raconte-moi
ça,
l'orgue.
Ça, c'est un partenariat avec le Théâtre du Grand Rond.
Voilà. Comme vous le dites, c'est un partenariat, un organiste, un comédien qui lit des textes. Et ces textes, en fait, évoquent l'orgue dans sa globalité, puis ensuite évoquent l'orgue du lieu dans lequel se situe généralement la petite présentation. Et c'est une formule très légère, 2 personnes, ça dure une demi-heure, c'est vraiment pour tout public. L'été, on le fait beaucoup pour les touristes. Mais c'est aussi une manière d'entrer un peu, c'est une manière de faire de la pédagogie intelligente, c'est-à-dire que c'est un vrai spectacle, c'est pas du tout un guide touristique, mais c'est un vrai spectacle, et en même temps, on apprend des choses, on découvre un peu le patrimoine. C'est une formule hybride qui me plaît beaucoup parce qu'elle marche bien.
Oui, donc il y a le récitant ou la récitante et l'organiste.
C'est ça.
Et c'est un dialogue.
C'est ça.
D'accord. Donc ça, c'est pour le jeune public, même si on peut amener le jeune public, de toute façon, pour écouter un concert qui lui est pas réservé aussi, quoi. C'est possible aussi.
Oui, il y a toujours des programmes qui sont plus accessibles au jeune public que d'autres. Bon, mais après, notre programme est suffisamment bien fait. On a des petits parcours fléchés à la fin où on donne quelques conseils au public éventuel pour les aider à choisir le concert. Ça, c'est dans notre brochure qui, cette année, est uniquement virtuelle. Covid oblige.
C'est pour ça. D'accord.
On a dans la fin de la brochure différents parcours qui sont proposés et qui donnent un choix possible de concert, un peu en fonction de son profil. Vous pouvez avoir un profil classique, pour un profil baroque, pour un profil découverte. Et donc, si vous vous identifiez à un profil, vous pouvez un peu regarder ces propositions et ça vous aide au niveau du choix. Si vous souhaitez venir à tout prix voir quelques concerts du festival, ce que je souhaite.
Donc il y a aussi le ciné-concert, comme tous les ans. Enfin, tous les ans, vous avez cette formule. Et donc, c'est avec un film autour d'Hitchcock, d'Hitchcock, c'est ça?
Oui, j'étais le premier à découvrir qu'Hitchcock avait fait des films muets, 1926.
Vous avez un spécialiste en face, cinéma, voilà.
Voilà, et bien,
c'est Monsieur Cinéma.
Je vais me taire tout de suite parce que je ne vais dire que des bêtises, je n'y connais rien. Mais ce que je peux quand même vous dire, c'est qu'effectivement, nous avons une organiste qui vient de Paris, Véronique Kosfer-Choplin. J'ai dû m'y reprendre. Mais c'est une très, très grande improvisatrice, organiste à Saint-Sulpice à Paris. Et donc, elle viendra faire la musique en temps réel de ce film, The Lodger, qui semble inspiré de l'histoire de Jack l'Éventreur. Et qui est un film, je trouve, qui se prête vraiment très bien à une projection à la Basilique Saint-Sernin et tout ça.
Donc je vous propose peut-être que nous fassions une pause musicale avant d'évoquer les concerts en journée, puisqu'il y a ça aussi. Et puis des petits apartés, notamment l'histoire du yoga au son de l'orgue, comme l'an passé, puisque ça a eu du succès, vous le remettez à l'ordre du jour, si on peut dire. Donc, ben, nous allons bientôt terminer notre entretien, puisque vous avez déjà beaucoup de travail, j'imagine. Vous avez maintes choses à mettre au point, puisque à une semaine du festival. Donc, parler des jeunes talents, vous souhaitiez parler des jeunes talents?
Oui, puisque nous avons parlé un peu en détail des concerts du soir. Il était intéressant de rappeler que nous avons des concerts à 12h30 aussi.
En journée, donc.
En journée, et qui sont donc souvent des récitals d'orgue donnés par des jeunes organistes qui sont en début de carrière. Mm-hmm. Je prends en fait souvent des lauréats de concours internationaux, donc des gens qui ont, on va dire, déjà pédigré, si on peut appeler ça comme ça, mais qui sont souvent vraiment de très très bons musiciens et qui viennent aussi faire comme ça des propositions centrées autour du répertoire pour orgue. Il n'y a pas que des jeunes talents, il y a aussi d'autres propositions. Cette année, il y a une présence importante des organistes de Toulouse, ce soit Jean-Baptiste Dupont, Mathieu de Miguel, nous avons mentionné Stéphane Bois, donc je suis vraiment très heureux de pouvoir leur donner une place de choix dans le cadre du festival. Et donc, ce sont les concerts un petit peu plus courts, de trois quarts d'heure au lieu d'une heure et quart, et ça donne comme ça une complémentarité au concert du soir.
Et donc, ces jeunes qui se retrouvent face à un public, donc c'est aussi une opportunité pour eux.
C'est une opportunité d'être programmé dans un festival qui évidemment a une grande notoriété dans le milieu. Hein, il faut rappeler que nous sommes quand même un des festivals les plus en vue dans le milieu de l'orgue. Et donc pour eux, c'est toujours une reconnaissance de pouvoir être invité ici au mois d'octobre.
Et donc, la formation d'un organiste en temps, c'est quel nombre d'années d'études ?
C'est totalement similaire à n'importe quelle formation classique qui commence dans les petits âges, on va dire, et qui se termine par des diplômes de type master entre 22 et 26 ans à peu près.
D'accord.
Mais puis après, il y a toujours une sorte de tuilage un peu doux entre la fin des études et le début de la vie active. C'est un peu ce qui caractérise la musique, mais d'autres milieux aussi, je suppose. Mais c'est pas franc du jour au lendemain, on soit actif, mais voilà, ça se fait un peu dans la douceur, on va dire.
Et donc aussi, il y a la formule qui avait été inaugurée l'an passé, c'est faire du yoga au son de l'orgue, et c'est à l'église de Jésus, donc ici, tout près d'ici, rue des Fleurs, hein, c'est ça ?
Oui, c'est cette formule du yoga avec accompagnement musical d'orgue, c'est quelque chose qui est né dans l'esprit d'une personne qui était dans notre équipe, Mathilde, je la salue au passage, parce que malheureusement, elle est partie sous d'autres cieux pour des raisons de choix personnel. Mais c'est elle qui avait dit, mais ce serait super de faire du yoga dans une église. On l'a fait déjà donc, l'année passée et ça a eu beaucoup de succès. Donc on le refait cette année bien sûr. Et voilà, c'est une espèce de petite touche là où on l'a nouveau décalé. Mais finalement, l'église du Jésus donc, est un lieu désacralisé. Il n'y a plus de messe au Jésus.
Et c'est là qu'il y a les bureaux de Toulouse-les-Orgues.
C'est là qu'il y a nos bureaux. Nos bureaux sont derrière l'orgue du Jésus. Et ça permet en fait d'utiliser ce lieu quand même magique. C'est une très très belle église de 1860.
Petite église, mais très jolie. Oui.
Exactement. Et je trouve original finalement d'avoir une activité, le yoga c'est quand même fait pour se recentrer, donc je trouve que le contexte, l'ambiance est importante, donc c'est un beau lieu, et il y aura de la belle musique pour aller avec.
Et donc il y a deux possibilités,
une séance.
Voilà,
je laisse les gens aller sur le site internet. Pour avoir le détail, là je me rappelle pas par cœur.
C'est www.toulouse-les-orgues, j'imagine, c'est ça ?
Tout à fait, oui. Si vous tapez Toulouse-les-orgues, les moteurs de recherche vous aiguilleront vers la bonne adresse.
Donc comme ça, toutes les personnes intéressées pourront choisir leur spectacle, leur concert, et réserver, puisque par Internet, c'est plus simple.
Nous privilégions Internet. Je rappelle quand même que pour les gens qui souhaitent se décider au dernier moment, parce que je peux comprendre que le contexte pousse à ça, il est évident que nous aurons aussi des billetteries en physique à l'entrée de chaque concert. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, non seulement il pleut, il fait froid, mais en plus il y a le Covid. J'aurais peut-être dû le dire dans l'autre sens. On a le Covid, mais en plus il fait froid, il pleut.
Oui, il y a tout.
Donc en réalité, ce n'est pas super incitant à aller au concert. Mais j'espère que les gens auront quand même l'envie de sortir de chez eux, parce qu'évidemment, un festival, c'est ça, c'est quand même avoir une activité sociale.
De partager des choses dans un lieu bien précis, dans un temps précis.
Et puis, évidemment, que le live, comme on dit dans toutes les musiques, c'est le live. Ça ne se remplace par aucun streaming, par aucun CD. Donc, je crois que ça reste fort. Parce qu'en fait, on est au-delà de la musique, on est dans l'échange humain. Et si les hommes arrêtent d'échanger, je pense qu'on va gentiment tous crever. Mais bon, heureusement, on n'en est pas encore là.
C'est une façon de vivre, quoi, d'être. Oui. C'est pas simplement... Donc voilà, pour toutes ces raisons, consultez le site du festival pour faire les réservations, puisque toujours pareil, les jauges sont réduites. Et donc c'est un festival qui se déroulera du 8 au 18 octobre, et donc ça commence jeudi prochain. Et je vous remercie infiniment.
Merci à vous.
Et comme tous les autres choses, c'est très bien, je vous remercie. À bientôt, merci, au revoir.
À bientôt.